à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Comme vous l'avez dit, l'espoir était énorme et les Lions de la Teranga avaient quand même commencé à faire rêver non seulement le Sénégal, mais tout son continent, surtout après le premier victoire, parce que les Lions de la Teranga avaient réussi quand même à offrir à l'Afrique sa première victoire, c'était lors de la du même avec ce qui s'est passé cet après-midi à Samara. Il faut dire que la déception est la chose la plus partagée, car le Sénégal avait besoin que d'un peu de points pour quand même passer au premier tour, mais qu'elle n'a pas été le cas. Les Lions de la Teranga ont été battus par les Everteros.
Alors, mais comment vous avez trouvé leur style de jeu aujourd'hui face à la Colombie?
Bon, le style de jeu n'a pas été convaincant, puisque si c'était convaincant, on allait se qualifier. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe avait besoin de 1000 pour se qualifier. L'équipe n'a pas attaqué, a l'unité a un peu chamboulé son 11 de départ en faisant quand même revenir Thierry Piatti, qui était le capitaine de l'équipe, mais qui a démarré toutes ses rencontres sur le banc depuis le début de la compétition. Il y a eu Diao Baldé Keita également, qui est en même temps qui a démarré cette partie et l'année dernière. Donc il y a eu trois changements par rapport aux 11 qui avaient battu non seulement la Pologne, mais qui avaient concédé le nul face au Japon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le coach de l'équipe nationale du Sénégal est en train de s'attendre en pleine compétition. Ce qui ne pardonne pas à ce niveau de la compétition, parce qu'ils ne pas les gérer et ils n'ont pas pu gérer.
Je vais prendre le pouls auprès de Bernard Lama. Quel est votre regard sur le match passé?
Bon, je pense que le Sénégal avait un vrai défi en face de lui, donc avec très peu d'expérience aussi, il faut quand même relativiser certaines choses. La Colombie est une équipe qui est régulière en Coupe du Monde, qui est régulière en Copa América, ce qui n'est pas forcément le cas du Sénégal en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Donc tout ça se paye à un moment donné, ce n'est pas forcément la faute d'un tel ou d'un tel. Je pense qu'il y a simplement des circonstances qui font que...
Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous?
C'est autre chose qu'un match de Coupe d'Afrique, et que tant que vous n'avez pas ce vécu-là, cette expérience-là, vous ne savez pas. Donc je pense que c'est décevant, bien évidemment. Hein. On espérait tous qu'il se qualifie, mais je pense aussi que c'est un beau parcours. C'est un beau parcours qui demande confirmation.
Oui, Bagassi Koura.
Pour les Nigérians.
Oui, effectivement, Bagassi Koura, il y avait... Petite pénalty sur cette faute sur Sadio Mané dans la surface de réparation.
C'est ce que beaucoup d'Africains, et surtout les supporters des Lions, ont pensé, hein, parce que on s'est dit que avec la faute qu'on a vue sur les écrans de télévision, il y avait clairement pénalty. Et même après la décision de l'arbitre, quand il a fini de consulter les écrans de vidéo, les gens étaient surpris pourquoi il n'a pas accordé le pénalty. Mais ça reste à débattre. Ce que je voulais ajouter à ce que Bernard Lama a dit, c'est que c'est vrai, moi je pense que le Cameroun, le Sénégal s'est bien battu, hein, ils ont tout de suite attaqué dès le début du match pour ne pas laisser les Colombiens contrôler le jeu. Mais quand vous attaquez et que vous ne marquez pas, c'est le haut niveau. Et ce qu'on avait craint depuis le début de cette Coupe du Monde pour toutes les équipes africaines, comment on va se comporter en seconde mi-temps, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, comme aime dire, ce qui devait arriver, arriva.
Nicolas Pino, dans cette Coupe du Monde, statistiquement, on a avancé ou on a régressé comparé aux autres Coupes du Monde?
Si on compare évidemment à 2010, le quart de finale obtenu par le Ghana face à l'Uruguay, on a régressé. Si on compare par rapport à 2014, par rapport à la présence du Nigeria et de l'Algérie en huitième de finale, éliminés par la France et par l'Allemagne, l'Allemagne future championne du monde, on a régressé évidemment. Après, je pense qu'il faut quand même... Moi, je séparais les équipes africaines en deux. Le Sénégal et le Nigeria ont vraiment échoué de peu sur des faits de match, notamment le fait de ne pas pouvoir tenir le résultat par rapport au Nigeria qui jouait quand même contre l'Argentine. Il faut le rappeler quand même, finaliste du Mondial 2014. Et le Sénégal qui évidemment s'est écroulé un petit peu sur la fin et qui n'a pas réussi à aller chercher ce match nul face à la Colombie. Et de l'autre côté, on a quand même une équipe d'Égypte plus faible qui revenait après 28 ans d'absence à la Coupe du Monde, qui comptait sur son buteur providentiel Mohamed Salah, mais Mohamed Salah a été blessé au premier match et ne pouvait pas tout faire. Le Maroc, ça a été également compliqué. On a eu beaucoup de polémiques sur la vidéo, sur l'assistance vidéo à l'arbitrage face au Portugal, face à l'Espagne. Et enfin, la Tunisie qui était quand même un peu plus faible, et on l'a vu avec ce 5-2 encaissé contre les Anglais. Donc je pense vraiment qu'il faut faire la différence entre ces équipes maghrébines et ces équipes subsahariennes pour expliquer un peu la déconvenue des Africains sur ce mondial.
Ahmedine Sy, les Lions d'Atalanta, on a vu qu'ils étaient vraiment très proches. Est-ce que vous avez des explications ou comment on peut expliquer là, les lacunes des dernières minutes de cette équipe?
Bon, il n'y a pas d'explication à donner parce que c'est clair, il fallait se battre pendant 90 minutes pour ne pas concéder une défaite parce qu'une qualification passait par un match nul. À défaut de gagner, il fallait vraiment concéder le match nul et l'équipe a été incapable de le faire. Et si on regarde également le règlement, parce que le Sénégal a été éliminé, parce que tout simplement, ils ont eu plus de cartons jaunes que le Japon avec qui on est à égalité parfaite. Donc si on regarde avec le recul, le Sénégal a concédé des cartons jaunes, bon, excusez-moi du terme, un peu bête. Donc le haut niveau, il faut savoir gérer, même les détails, il faut les gérer, et ça, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que Bernard Lama a raison, le Sénégal n'est pas expérimenté, c'est sa deuxième participation à une phase finale de la Coupe du Monde, c'est vrai, parce que la première en 2002 s'est soldée par un parcours remarquable, c'est pourquoi les gens pensaient que le Sénégal avait l'habitude d'avoir de bons résultats en Coupe du Monde. Ce n'est pas le cas, donc c'est l'apprentissage et elle est très difficile, il faut continuer, tirer les leçons de cet échec pour repartir du bon pied, Nathalie.
Mais Bernard Lama, on va parler donc d'un plus général, comment ça se fait que les sélections du continent n'arrivent pas à dépasser les quarts de finale?
Oui, bon, je pense que les réponses, on les trouve dans le travail qui a été ou qui n'a pas été fait sur les 20 dernières années. Le travail de formation, le travail, ça va faire à peu près 20 ans que j'ai arrêté de jouer au football, mais quand je jouais, tous mes collègues africains avaient le même discours quant à l'organisation des fédérations, voire de la confédération. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas comblé le retard économique, le retard structurel, il sera difficile d'être au haut niveau. Nos joueurs sont obligés de s'expatrier pour s'exprimer dans les meilleures conditions. Donc il est très rare de voir sur le continent un club professionnel africain où les joueurs soient payés régulièrement et soient mis dans de bonnes conditions. Ou alors c'est le fait de quelqu'un qui est riche et qui se fait plaisir. Donc voilà où de mon point de vue, où est l'explication. On le voit bien, les joueurs ont de la qualité. On voit une nouvelle génération de Nigériens, on voit une nouvelle génération de Sénégalais. Les Marocains ont fait de très bons matchs, sont pénalisés, ils sont pénalisés, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par cet arbitrage aussi.
Mais justement, je veux rebondir sur votre commentaire avec les réactions de nos téléspectateurs. Ils ont réagi en ligne sur Facebook. Donc, on a le commentaire d'Aruna Traoré du Mali qui dit: jusqu'ici, les équipes africaines ont toutes été victimes du mauvais arbitrage, comme les instances du foot ne veulent pas voir les équipes africaines atteindre la demi et la finale de Coupe du Monde. On a un commentaire de Mike Kitenges-Niz de la RDC qui dit: c'est clair, car les vidéos montrent et affirment ce que les arbitres n'affirment pas. Je donne raison à l'appellation de la FIFA qui circule, F comme football, I comme is not, F for A Africa. Donc football is not for Africa. Et Tidiane Botegueba, cadre du Cameroun, qui dit: vous savez, pour manger, il faut avant tout préparer, mais en Afrique, on n'aime pas manger sans préparer. Comment peut-on comprendre que tous ces pays ont encaissé des buts à quelques minutes de la fin? Une réaction, Nicolas Pinault, sur ce dernier commentaire. Y a-t-il un syndrome ou y a-t-il un problème de gestion des matchs avec ce syndrome de la dernière minute?
En tout cas, c'est vrai que les deux équipes africaines, les deux dernières, le Nigeria et le Sénégal, ont connu ces coups du sort-là. Après, ce sont des faits de match, hein, sur 90 minutes. On pourrait peut-être plutôt plus pointer du doigt la capacité à ne pas marquer pour le Sénégal de but libérateur. Après, voilà, par rapport au Nigeria, C'est vraiment une grosse équipe, l'Argentine, hein, qui a connu évidemment des hauts et des bas sur cette compétition. Mais comme le disait Bernard là-bas, il y a quand même beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de maturité, une habitude du haut niveau pour cette équipe argentine. Donc, en tout cas, sur ces deux matchs, c'est comme cela que ça peut s'expliquer. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que sur cette Coupe du Monde, on voyait un resserrement du niveau quand même. Alors, on a eu des scores fleuves, le 6-1 du Panama contre l'Angleterre et le 5-2 de la Tunisie face à la Belgique. Mais grosso modo, on l'a vu, l'Allemagne a été éliminée, l'Argentine a été accrochée, ça a été dur pour les Espagnols et les Portugais. On a quand même ce nivellement quand même du football mondial vers le haut. On voit que l'Islande qui maintenant s'invite à la table à l'Euro mondial, on peut imaginer notamment
avec l'Allemagne aussi,
on peut imaginer notamment dans le cadre d'un mondial à 48 équipes avec des poules de 3 équipes où on aurait des éliminations beaucoup plus brutales. Et on peut estimer qu'une réforme de la Coupe du Monde et une participation à 48 avec des poules beaucoup plus réduites pourrait favoriser l'émergence de plus petites nations lors de matchs couperets, comme on voit déjà sur cette Coupe du Monde.
Très intéressant. Washington Forum revient après une courte pause.
Leur famille, mais aussi pour le pays. Nous avons confiance en notre football. Nous avons confiance en notre football.
Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Nous retrouvons nos invités en direct de Paris, en France, au téléphone. Bernard Lama, cofondateur et président de Jambars, en direct de Samara en Russie, Amédine Sy, journaliste sportif. Et avec moi sur ce plateau, toujours Nicolas Pineau et Bagassi Koura, journaliste à la VOA Afrique. L'assistance vidéo à l'arbitrage a été mise en place pour éviter les erreurs et réduire les contestations dans le jeu. Il y a eu notamment plusieurs cas de contestation. Écoutons le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, après leur défaite contre l'Argentine, au micro de Nicolas Pineau.
Oh, c'est un manque de réussite parce qu'on méritait autant que les Argentins d'être qualifiés. Il y a eu aussi cette histoire de pénalty et d'arbitrage vidéo. Il y avait à notre avis une main flagrante qui aurait dû donner un pénalty, mais l'interprétation là de cette vidéo a été à mon avis une faute, puisque c'était un pénalty très clair pour nous, ça aurait pu faire 2-1, et à ce moment-là on était pratiquement qualifiés, donc ça tient à peu de choses.
Bernard Lama, vous avez entendu donc Gernot Rohr. Quel est l'apport de la vidéo si c'est pour avoir toutes ces contestations et polémiques?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que... Alors là, c'est vrai que les Nigérians en subissent... Bah oui, l'assistance vidéo, c'est une aide, tout simplement. C'est l'arbitre qui, au final, va décider s'il y a au penalty ou pas. Alors c'est vrai que le fait de simplement d'arbitre lui met déjà, indique déjà qu'il y a quelque chose. Et après c'est l'interprétation de l'homme. Donc c'est une aide. Il faut pas le négliger. C'est une aide. Ce que je peux reprocher, c'est que ce soit mis en application lors d'une Coupe du Monde comme ça directement, sans qu'il y ait réellement eu une compétition qui permette, par exemple, la Coupe des Confédérations l'année dernière ou des compétitions continentales qui permettent aux équipes de s'habituer à ça, qui permettent à tout le monde de s'habituer à cela et de trouver, d'essayer en tous les cas de trouver un juste milieu. Il y a quand même moins de contestations, il y a quand même moins de... je suis parfois beaucoup plus surpris par justement les contestations sur le terrain au niveau des fautes de la part des joueurs.
Nicolas Pineau, vous pouvez rebondir sur ce commentaire.
C'est vrai qu'on avait espéré que grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage, qu'on allait résoudre tous les problèmes. Et en fait, ce que explique Bernard Lama, c'est qu'il y a un facteur humain qui s'appelle l'arbitre. Et alors, certaines techniques, finalement, lorsque le ballon a traversé la ligne, ça c'est quelque chose d'automatique, mais il y a aussi une question d'interprétation, et notamment, on l'a vu beaucoup dans le cadre des équipes africaines, est-ce que c'est le ballon qui va vers la main, est-ce que c'est la main qui va vers le ballon, par exemple, dans le cadre du pénalty non sifflé sur Sadio Mané, est-ce que le joueur touche le ballon en premier ou est-ce qu'il touche d'abord l'adversaire avant. Et ça, c'est l'interprétation de l'arbitre et c'est ça qui du coup a expliquer qu'il y ait autant finalement de frustration. Finalement, la vidéo n'est pas l'alpha et l'oméga. L'autre chose, c'est qu'on a vu beaucoup de joueurs finalement lors d'actions, de faits de match, demander à l'arbitre, mais allez voir la vidéo, allez voir la vidéo. Donc c'est vrai, peut-être Bernard Lama a raison sur ce point-là. Est-ce qu'il fallait une Coupe du Monde avec autant d'enjeux, avec autant de pression pour introduire cette assistance vidéo à l'arbitrage? Peut-être pas, on aurait peut-être dû commencer sur une compétition secondaire. En tout cas, une chose est sûre, la vidéo ne règle pas les contestations, voire même l'amplifie, puisque finalement, on en parle peut-être un peu plus, notamment pour les équipes africaines.
Bagazikoura.
Oui, il faut dire qu'il y a eu des cas quand même où la vidéo a pu trancher et les gens étaient satisfaits parce qu'il y a des buts qui avaient été refusés, des pénalités qui avaient été refusées. Grâce à l'assistance vidéo, on a pu rétablir cette pénalité-là. C'est vrai.
C'était pas trop pour les équipes africaines, en tout cas.
Oui. Quand vous êtes éliminé dès le premier tour, vous pouvez trouver mille raisons de vous plaindre, hein, et certaines sont justifiées bien sûr, mais aussi voilà, en tant que supporter, chaque coup de sifflet de l'arbitre peut amener une bonne partie des supporters à réagir négativement, et parce qu'on est partisans forcément. Mm-hmm. Et peut-être, c'est une idée folle aujourd'hui, peut-être que si on veut pousser loin la technologie, il faudra l'intelligence artificielle qui peut prendre tous les cas de faute sur le terrain, et s'il y a contestation, la machine va décider, voici dans cette situation, voici ce qui a été prévu selon les données que nous avons.
Ok, on va parler maintenant de l'humain. L'entraîneur Aliou Cissé, l'architecte de l'équipe sénégalaise, a incarné l'antithèse de cette habitude de voir des vétérans européens qu'on appelle les sorciers blancs à la tête des équipes africaines. Pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains en Afrique?
Bon, c'est une question très difficile à répondre parce que ce sont les dirigeants, d'habitude les présidents de fédérations qui choisissent quand même les entraîneurs, et ils ont tendance à choisir des entraîneurs blancs. Pour moi, la compétence n'a pas de couleur, hein, que tu sois blanc, noir, jaune ou marron, l'essentiel c'est que tu sois bon. Et à l'issue, je pense qu'il l'a prouvé. Même si sur le plan contenu, il ne donne pas entière satisfaction au Sénégalais, mais sur le plan résultat, Aliou Cissé a fait quelque chose d'extraordinaire. Il va tirer depuis qu'il est à la tête de cette équipe il y a trois ans de cela. L'équipe vient de concéder sa première défaite officielle sur la pelouse. Donc on n'a perdu que contre le Cameroun en quart de finale de la Coupe des Nations, et c'était sur la série du tir au but. Sinon, l'autre défaite, c'était contre la publicité en éliminatoire de la Coupe du Monde à Polokwane. Et ce match a été réduit. Donc sur ce plan-là, on n'a rien à dire à Aliou Cissé, il n'a rien à envier aux autres coups. Je pense que les Africains comme Aliou Cissé, comme Bernard Lama, qui est un ancien footballeur.
Oui, d'ailleurs, Bernard Lama, on l'a avec vous, je lui ai posé la question. Bernard Lama, qu'en pensez-vous? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs aussi africains dans le monde, et notamment même en Europe.
Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, à la précédente question. Qu'est-ce qui a été fait sur les 20 dernières années, comment les choses étaient gérées, combien d'entraîneurs a-t-on formé, combien d'entraîneurs de haut niveau a-t-on formé, combien d'entraîneurs a-t-on envoyé en stage dans les grands clubs, dans les grandes fédérations pour qu'ils se forment et qu'on leur donne ensuite les moyens d'appliquer une politique. Je pense que voilà, c'est ce qui a manqué. C'est pour ça qu'on et qu'il y a toujours le fantasme effectivement du sorcier blanc qui arriverait en secours, mais en fait de sorciers on en a chez nous aussi, seulement ils n'ont pas l'expérience du haut niveau, et on ne leur donne pas le temps on ne les laisse pas. Donc voilà, il faut changer ces mentalités là il faut renforcer les footballs locaux, les fédérations locales. Il y a un meilleur travail qui doit être fait, envoyer nos meilleurs entraîneurs se former et puis leur faire confiance, et surtout leur donner des moyens. Le football, hein, vous pourrez avoir le meilleur entraînement, le meilleur entraîneur, le meilleur joueur. Vous n'êtes pas obligé de gagner. Regardez l'Argentine. Mm-hmm. Messi, il n'a pas encore gagné réellement une grande compétition. Enfin, en tous les cas, le mondial, il en est à son troisième. Mm-hmm. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en face, il y a des gens qui travaillent, qui ont travaillé depuis des années pour préparer tout cela.
Bernard Lama.
Sur l'arbitrage vidéo, sur toutes ces choses-là, je pense qu'il faudra un peu de temps pour que les choses se régulent. Mais je pense pense que le meilleur moyen d'éviter ces choses-là, c'est de faire ce qu'il faut sur le terrain pour que une victoire ne soit pas contestée.
Oui, donc Bernard Lama, vous m'entendez?
Elle marque trop peu de buts pour pouvoir prétendre aller au plus haut niveau, quoi.
Bernard Lama, aux côtés de Patrick Vieira et Jimmy Adjovi Boko, vous avez lancé le projet Diemba. Il s'agit d'une école de football au Sénégal. Donc on voit bien que pour vous, ce qui manque et l'élément essentiel, c'est la formation pour l'avenir du football africain.
Oui, parce que quand on a mis Jambars en place, vous voyez, il y avait Idrissa Ganagay sur le terrain aujourd'hui, il y avait Karamboj aussi qui était là, Papalioun également. Donc on en avait trois qui ont été formés sur les 15 dernières années à Jambars. Entre-temps, on a créé une dynamique qui a permis à d'autres académies de se mettre en place. Donc le Sénégal a fait un grand bond en avant en mettant certaines choses en place. Il faut aller plus loin, et pas que le Sénégal. Il faut qu'à la base, le problème en Afrique, il est à la base, les talents, ils sont à la base. Donc il faut arrêter de laisser les talents partir et il faut arrêter le pillage, quoi.
Il faut arrêter de laisser les talents partir. Nicolas Pineau, justement, les talents africains sont recrutés très jeunes par les équipes occidentales. Est-ce que le foot africain est à la traîne dû justement à cette mondialisation?
En tout cas, il faut créer des académies de football, il faut que les jeunes puissent s'épanouir dans les championnats locaux quand ils ont 15, 16, 17, 18 ans. Ce qu'a fait Bernard Lama avec les Diambars, les guerriers en Wolof, c'est magnifique parce que du coup, ils ont pu accéder au championnat sénégalais, le remporter. Ils ont même eu une présence lors des Coupes africaines. Ça, c'est un modèle qu'il faut. On avait bien évidemment la SEC Mimosa à Abidjan. Et ça, il faut que ce soit des modèles qui puissent se reproduire dans différents pays, que les jeunes footballeurs aient aussi un espoir économique. Bernard Lama le soulignait, beaucoup de championnats africains, même au niveau professionnel, il y a des difficultés économiques pour payer les joueurs. Et ça, quand vous êtes un jeune joueur africain, vous n'avez pas forcément envie d'avoir cette réalité-là. Et vous préférez peut-être être formé dans les meilleures conditions dans les championnats européens pour pouvoir être payé régulièrement et pour pouvoir vous épanouir.
Bagassi Courant, un dernier mot.
Moi, je voulais ajouter sur la question des entraîneurs. Que vous savez, à chaque phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, on voit les entraîneurs virer après chaque élimination d'équipe nationale. Oui. Et comme Lama l'a dit, c'est pas parce qu'on a perdu qu'on n'est pas forcément bon. Et c'est toujours bien que l'entraîneur reste là, si c'est possible, un certain temps pour tirer les leçons de toutes ces expériences-là et continuer à maintenir l'équipe, que de, à chaque compétition, retourner chercher un sorcier blanc, il vient, il fait 6 mois, il échoue, on va chercher quelqu'un d'autre, et on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à tirer les leçons, parce que celui qui était là à la Coupe du Monde en Russie, c'est pas celui qui sera là à la prochaine Coupe du Monde, et on aura une nouvelle personne qui devra commencer à zéro, et ça fait l'éternel recommencement, je pense.
Amédine Si, le mot de la fin? Votre mot de la fin, je sais que vous êtes très pris de votre côté, mais très rapidement.
Le mot de la fin, je pense que les Africains doivent quand même tirer une leçon de cette contre-performance parce que l'Afrique a été visible dans cette compétition, tirer une leçon pour devenir très fort.
Bernard Lama, votre mot de la fin?
Continuer à travailler, avoir de l'espoir. Les talents sont là, les pépites sont là. Il faut les valoriser localement. Donc plutôt que des projets, privés, il faudrait qu'il y ait de véritables politiques sportives qui se mettent en place sur le continent. Et ce n'est pas une question de moyens, parce qu'il y a des moyens sur le continent africain. Donc c'est où est-ce qu'on veut les mettre, pourquoi on veut les mettre. Et quand je parle de politique sportive, je parle d'éducation, je parle d'économie et de tout ce que ça englobe. Il faut qu'aujourd'hui l'Afrique puisse bénéficier de cette économie mondiale qu'est le football.
Nicolas et Bagassi.
Non, on peut se féliciter qu'on n'ait pas eu de problème de primes cette année. Notamment, les équipes africaines avaient eu une avance de 2 millions de dollars chacune de la FIFA. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif et montre que le football africain va dans le bon sens.
Je pense qu'il faudra mettre l'accent sur le détail parce que le Sénégal est sorti sur la base de carton jaune et peut-être qu'il faudra qu'on puisse mettre l'accent sur le détail. Comment gérer le temps de jeu parce que souvent, on a pu marquer,
on n'a pas
pu gérer.
Maintenant, on va arrêter ainsi que ce Washington Forum déjà. Merci à tous nos invités et à mes collègues. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.